Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter, c'est le dernier instant M de la semaine.
Et vous coupez ?
Non, je coupe pas.
Vous êtes en direct, allez-y.
Arte diffusera dimanche soir après Terminator 2 un doc sur la fabrique d'Arnold Schwarzenegger, simple autrichien parti de rien, parvenu à tout, gloire, richesse et pouvoir grâce à une volonté de faire et à un sourire radieux. Pourquoi vous raconter cette histoire dans l'instant M ? Eh bien parce que de ce corps super musclé, super augmenté dirait-on aujourd'hui, l'acteur a fait un spectacle et un symbole de l'Amérique avec la conscience précoce que la nation américaine elle-même avait pour bras armé de sa mythologie et de ses conquête l'image. Arnold Schwarzenegger, bête humaine, bête médiatique et bête politique.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour à vous tous et bonjour à Camille Jusa.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes réalisatrice, d'ailleurs on a pu entendre certains de vos documentaires sur France Culture. Bonjour à Jérôme Mamsilovic.
Bonjour.
Je me suis pas trompée sur son nom de famille, c'est formidable. Vous êtes vous auteur de Prodige d'Arnold Schwarzenegger qui est paru aux excellentes éditions Capricci. Voilà pour les présentations, vous co-signez ce film dont on va parler aujourd'hui. À vos côtés, comme chaque vendredi, la semaine médiatique de Bruno Donnet. Ça va Bruno ?
Bonjour à vous, suppôts du Grand Capital.
Il n'est pas moins énervé que la semaine dernière, c'est ça qui est bien avec Bruno. Mais avant cela, actu. Le tribunal de commerce a rendu hier à Bobigny son jugement. L'humanité dont on vous a exposé ici les graves difficultés financières, le quotidien communiste, échappe à la liquidation pour être placé finalement en redressement. Avec, et c'est le plus important, une poursuite de l'activité. Le plan de redressement donc de la direction a quelques mois supplémentaires pour faire ses preuves. C'est vendredi, c'est la Madeleine. Mon cadeau cette semaine, c'est le 33 tour. Alors, je vous le montre, hein, parce qu'il est très très beau. Si vous nous regardez en vidéo, c'est le 33 tour des concerts de Jacques Brel à l'Alhambra et dans différents cabarets, réédité par la Digger Factory et par Lina. Comme d'habitude, le premier qui envoie un mail à l'instantm@radiofrance.com, tout attaché à gagner. Voici la question. Qui a composé l'indicatif de Oum le Dauphin ?
Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers.
À qui doit-on cet indicatif de notre enfance ? Quoique Oum le Dauphin, c'est quand même plutôt les années 60 à l'ORTF, certains d'entre nous n'étaient pas nés. Attention, il y a deux noms à trouver aujourd'hui, l'instant M à radiofrance.com. Mon cher Bruno Donnet, hier, Jean-Luc Mélenchon a traité dans un tweet le magazine L'Obs de, je cite, « poubelle macroniste ». Et mardi, il avait qualifié sur son blog le site Mediapart de, je cite encore, « chien de garde zélé de la Macronie ». Ces deux charges, pourtant très violentes, contre la presse, ont suscité peu de réactions. Et vous nous dites que c'est à cause d'une grande peur journalistique. La répétition.
Oui, Sonia, Jean-Luc Mélenchon utilise contre les médias une arme absolument diabolique, la redite. Ouais. Elle est diabolique parce que si lui passe son temps à se répéter...
C'est vous les médias qui faites un travail de merde.
...à insulter les journalistes...
Moi je te parle de médias et de ton métier pourri.
...et à affirmer qu'ils sont tous des laquais du pouvoir...
Vous êtes le système c'est vous, c'est vous, c'est vous le système.
Les journalistes, qui furent pourtant si prompts à dénoncer ces premiers dérapages, hésitent désormais à relayer ces attaques, précisément parce qu'elles sont devenues incessantes et pour ne pas sombrer dans la redite. Car la redondance, et Jean-Luc Mélenchon qui fut un temps journaliste à la Dépêche du Jura le sait parfaitement, c'est considéré dans notre métier comme une grande faiblesse. D'abord parce que nous cherchons tous la nouveauté, mais aussi par crainte de lasser ceux qui nous lisent, ou qui nous écoute. Et puis, et c'est aussi pour ça que le piège est totalement machiavélique, si un média décide de se répéter, de faire un énième papier pour faire remarquer les objections de M. Mélenchon, eh bien, il est immédiatement soupçonné d'être de parti pris. Le problème, c'est qu'en ne traitant pas, ou plus, les attaques dégradantes du leader de la France insoumise, on donne aussi l'impression de s'y être habitué et d'avoir accepté l'inacceptable. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dit de si grave ? Eh bien, il a comparé la tentative de perquisition qui s'est déroulée lundi au siège de Mediapart à celle qui l'a concernée, lui, en octobre dernier.
Perquisition chez Mélenchon pour les comptes de campagne.
Et il en a profité pour dire qu'à l'époque, Mediapart n'avait pas condamné cette action de la justice et s'était donc comporté, je le cite, « en chien de garde zélé des basses besognes de la Macronie ». En d'autres termes, Mélenchon a tenté de nous faire avaler qu'une perquisition au siège d'un journal qui n'avait d'autre but que de violer un principe cardinal, le secret des sources, de trouver le nom de celui ou de celle qui a livré l'enregistrement de la conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, était équivalente à une perquisition pour savoir si oui ou non, un candidat à la présidence de la République s'était mis hors la loi. Mais surtout, surtout, au moment où les journalistes se font péter la gueule dans les manifs parce que certains les accusent d'être des suppôts du pouvoir, Jean-Luc Mélenchon est venu très tranquillement souffler sur les braises encore chaudes de la démagogie et traiter un site d'information qui, par son travail et ses révélations, met en très grande difficulté le sommet de l'État de collabo. C'est gonflé. Très fort, trop fort, voilà pourquoi s'étonner que devant une affaire d'État, devant l'arrogance folle d'un Benalla soupçonné d'avoir tabassé des manifestants, toisé la commission d'enquête du Sénat, violé son contrôle judiciaire, continué à avoir des échanges avec le président de la République, rencontré des chefs d'État africains et un oligarque russe pour négocier Dieu seul sait quoi, s'étonner, disais-je, qu'un des principaux dirigeants de l'opposition considère que, sur ce dossier, son seul travail, c'est d'aller désinguer ceux qui ont permis à l'affaire de rebondir et de faire trembler le pouvoir en les traitant de chiens de garde zélés, ça n'est pas se répéter, mais simplement refuser de voir salir les trottoirs de la démocratie par un leader politique qui prend bien trop souvent les journalistes pour des réverbères.
Merci Bruno. À réécouter sur franceinter.fr. La redite, on y repensera à la redite. Vous savez, on vous embrasse, cher Jérôme. Alors, pas Jérôme Momcilovitch, mon invité, hein, Jérôme, notre auditeur. Qui c'est qui a parfaitement reconnu l'indicatif d'Oum le Dauphin, premier dessin animé français diffusé au Japon en 1969. Eh bien, c'est deux grands noms de la musique de cinéma, c'est Vladimir Cosma et Michel Legrand. Allez, Arnold Schwarzenegger nous attend.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Maintenant, je sais exactement ce que le public attend de moi. C'est ça l'important. Parce que vous pouvez dire au studio, « Ok, très bien, je ferai Conan 3 pour vous, et en échange, vous me laissez faire un film qui me plaît. Mais ça n'avance à rien, le film fera un flop et personne ne gagnera d'argent. »
Carrière phénoménale, fortune phénoménale, influence phénoménale. La fabrique d'Arnold Schwarzenegger, diffusée dimanche soir à 23h sur Arte, où l'histoire d'un homme devenu super-homme, super-héros, super-homme d'affaires, super-homme politique. Jérôme Momcilovitch et Camille Jusa ont co-signé ce film. Ils sont mes invités. Entraînement, volonté, discipline. Ce sont les maîtres mots d'Arnold Schwarzenegger, Mister Univers à 20 ans, qualifié de chef autrichien, Jérôme Momcilovitch, oui, qui est devenu un exégèse.
Oui. Je pense qu'il y a un mot, d'ailleurs, vous nous avez fourni un enchaînement assez idéal, c'est que, évidemment, la discipline, c'est le maître mot, mais la redite. La redite, c'est qu'en fait, on s'est surtout rendu compte de ça au moment de fouiller dans ces très, très, très nombreuses archives. C'est que c'est quelqu'un qui a, et c'est en ça que c'est une machine de communication extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment répété pendant 40 ans, 50 ans la même histoire. En sorte de la faire croire évidemment à tout le monde, et tout le monde y a cru, et c'est voilà, c'est avant tout ça, c'est avant tout cette capacité à enfoncer le clou, le même clou médiatique pendant plusieurs décennies.
Voilà, alors évidemment ce corps absolument hors norme, cette espèce de perfection musculaire, lui vaut ce dont il rêvait, c'est-à-dire un appel de l'Amérique à la fin des années 60. Très étonnant, ce corps, il le décrit lui-même comme celui d'un monstre, et vous allez nous expliquer aussi ce qu'est le terme freak en anglais.
C'était un peu la mecque du bodybuilding. C'était fantastique. Toutes les femmes qu'il y avait là-bas et tous ces monstres, c'était incroyable, tous les monstres qui traînaient là-bas. À l'époque, moi aussi j'étais une sorte de monstre. Je parcourais Venice Beach de long en large et les gens s'arrêtaient devant moi et me dévisageaient comme si j'étais un lion échappé du zoo. C'était une scène très amusante, mais j'adorais ça.
Jérôme Momcilovitch, vous qui avez revu toutes ces interviews, toutes ces archives d'Arnold Schwarzenegger à la télévision, il a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour sur lui-même ou beaucoup de clairvoyance ?
Il a les deux, et en même temps je pense qu'il faut le prendre très au sérieux quand il parle de monstre ici, quand il parle de freak effectivement, parce qu'en vérité l'apparition de Schwarzenegger au début des années 80, c'est vraiment le retour à ce qu'on appelait le freak show au début du siècle, c'est-à-dire le retour à Barnum. L'idée d'un corps, et d'ailleurs c'est l'étymologie du mot monstre, l'idée d'un corps qui est là pour être montré. Et par ailleurs, et ça, ça a été le véritable point de départ du documentaire, et c'était celui du livre, il y a une autre étymologie du moment, ce qui nous renvoie à l'idée que c'est un présage. Il est venu nous annoncer quelque chose.
C'est ça, je trouve ça absolument passionnant, parce que pour moi, dans l'histoire littéraire et même cinématographique du monstre, il y a la notion de souffrance, il y a la notion de rejet, il y a la notion de honte. Le monstre, c'est l'objet qui concentre finalement en miroir tout ce que la société ne veut pas voir, Camille Jusa. Et lui, au contraire, ce corps, il le montre, il le revendique, il en est fier, il en fait un spectacle total, dites-vous.
Oui, alors en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'en plus, dans les années 70, il le montre, et en fait, ça ne prend pas. C'est-à-dire que ce que nous, on voit pendant toute la décennie 70, c'est un Schwarzenegger qui va remporter toutes les compétitions de bodybuilding, qui va essayer de percer à Hollywood, mais il reste vraiment dans l'arrière-cuisine. Oui. Et en fait, voilà, il faut attendre
alors
que...
Alors, il faut dire ce qu'était l'Amérique aussi dans les années... À la fin des années 60 et 70.
On est quand même dans une Amérique beaucoup, assez affaiblie par la guerre du Vietnam, une Amérique qui est aussi assez hippie, qui remet en cause tout ce rêve américain, toute cette consommation de masse, etc. Et lui, en fait, il est complètement décalé pendant une dizaine d'années, ce qui est très long, jusqu'en 1976, où une sorte d'intello new-yorkais va faire un grand film sur le bodybuilding en disant attention, c'est très sérieux cette histoire de bodybuilding, c'est pas une sous-culture de frics, justement, venez regarder, c'est vraiment intéressant. Et là, tac, il se passe un truc et il devient la coqueluche des médias et c'est parti.
Alors, Jérôme Mancilovitch, dès l'enfance, Arnold Schwarzenegger a ce rêve culturiste. Dès l'enfance, il est lié pour lui à l'image et au cinéma et à l'Amérique. C'est-à-dire, tout s'entremêle dans la mythologie d'Arnold Schwarzenegger et la façon dont il construit son propre parcours. Le cinéma, c'est Rage Park, c'est le péplum, c'est aussi John Wayne, c'est-à-dire comment on fabrique des héros américains autour du corps et de la démonstration de force et de puissance.
Absolument, et à cet égard, c'est un rêve très pragmatique parce que le véritable objet de son rêve, évidemment, c'est l'Amérique. Voilà. C'est l'Amérique, mais alors vraiment d'une manière, c'est vraiment un enfant des Trente Glorieuses, c'est l'archétype absolu de ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui rêve l'Amérique, qui veut devenir l'Amérique. Et le culturisme, de ce point de vue-là, a été un... Il le dit très clairement, d'ailleurs dans une interview qu'on n'a pas retenue, mais il dit, il a fallu à un moment que je choisisse quelque chose, que je choisisse un sport dont je pourrais être le champion, et ça a été le bodybuilding.
C'est génial, parce que lui, il dit, pour moi, l'Amérique est so big, donc je vais devenir so big, donc il sera millionnaire à moins de 30 ans. Voilà, là, on va basculer Camille Jusa dans les années 80. Reagan lui-même devient acteur. Était acteur, et il devient président de la République. Donc là, on change, la culture américaine change totalement de braquet. Mais que Hollywood peut-il faire de ce corps, justement, ce corps que ça y est, on voit, que ça y est, on assigne, que ça y est, on reconnaît et qu'on acclame.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ce corps, il n'est pas si simple à utiliser. Évidemment, alors moi, je me souviens très qu'en 92, j'avais 15 ans et je vais voir Terminator 2. Et je me souviens très bien quand Jérôme a commencé à travailler sur son livre, ça m'a fait une petite madeleine et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, en 92, je me suis assis dans la salle de cinéma, j'ai regardé Terminator 2 et je me suis dit, mais pourquoi les studios ont choisi un type aussi gros, c'est pas possible. Pourquoi il rentre même pas dans l'écran? C'est quoi l'idée? Et en fait, cette espèce d'effroi, de frayeur, elle est dans Conan déjà. En 1982, il fait Conan le barbare et il est encore très gros. C'est quand même un rôle assez bizarre. Et il faut attendre 84 pour que vraiment il trouve son grand rôle au cinéma. Donc ce rôle de robot assez mutique, assez froid.
Signé James Cameron, c'est un très grand cinéaste.
Voilà, très grand film, très grand cinéaste. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que dans ce film, Schwarzenegger n'est pas déshabillé, il n'est pas nu. Il n'est plus le bodybuilder. Il commence nu au début du film et après, il est dans sa veste. On ne verra plus son corps. Il est devenu le robot.
Et ça, Jérôme Mancilovitch, c'est passionnant parce que ça n'est plus une question de muscles. C'est-à-dire qu'il y a un monde entre Chuck Norris, Sylvester Stallone et autres bêtes musclées de l'époque. Avec Terminator, le corps d'Arnold Schwarzenegger devient une humanité fabriquée, une humanité augmentée, on dirait aujourd'hui à l'époque du transhumanisme. Et ça se prolonge, c'est-à-dire dans ses plus grands films, Total Recall, L'Aube du sixième jour, ça devient une projection de l'homme de demain, une forme d'anticipation.
Absolument, et je trouve que
cauchemardesque ou au contraire fascinant.
Les deux, évidemment, les deux. Ça va ensemble, mais je pense que Terminator a vraiment quelque chose de séminal dans cette histoire-là, parce que, évidemment, on le présente toujours en disant qu'il tient le rôle d'un robot, mais en vérité, il tient le rôle d'un robot qui lui-même est en quelque sorte un acteur qui doit jouer le corps humain, qui doit jouer l'homme. Et c'est là, c'est peut-être le seul endroit où on peut vraiment le considérer comme un bon acteur, c'est que c'est quelqu'un qui a ramené dans l'image de cinéma le corps perçu comme quelque chose d'aussi étonnant qu'il l'était au tout début du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma a été inventé pour ça. Et avec Schwarzenegger, je pense que l'émotion qu'on avait, l'espèce de la façon qu'on avait d'être subjugué à l'époque devant ce corps-là, c'était aussi simplement ça. C'était se rappeler qu'un acteur, c'est d'abord un corps humain. Et il nous a fait recommencer à zéro l'histoire du corps, en quelque sorte, pour nous amener vers son futur posthumain, comme on dit aujourd'hui.
Alors, le super-homme et la super-puissance de l'Amérique, c'est là que l'histoire devient très politique et passionnante. Écoutez comment George W. Bush parle de l'Amérique.
Le monde est en transition. Le défi majeur des années 90 sera de gagner la compétition économique et de gagner la paix. Nous devrons être une superpuissance militaire, une superpuissance économique et une superpuissance de l'exportation.
Superpower, superpower, superpower. Les républicains n'ont que ce mot-là à la bouche dans les années 90. À ses côtés, il y a Arnold Schwarzenegger. Donc, arme super puissante des campagnes médiatiques et des campagnes électorales des républicains. Et d'ailleurs, dans son propre vocabulaire, Arnold Schwarzenegger parle de Republican muscles, les muscles républicains, Jérôme Momcilovic. Non, mais dans le champ lexical, ça devient passionnant.
Oui, et à ce sujet, il y a une chose qui nous a vraiment frappé en parcourant les archives. C'est qu'on avait tendance à associer, comme tout le monde, Schwarzenegger aux années 80. Mm-hmm. Et on s'est rendu compte en faisant le film qu'en vérité, ce dont il est absolument emblématique sont plutôt les années 90. C'est-à-dire un mot qui est presque désuet aujourd'hui, qui était la mondialisation. Il a été l'incarnation absolue de la mondialisation, et évidemment de la domination américaine sur le mouvement de la mondialisation. Et il y a une chose qui est frappante aussi dans l'utilisation qu'a fait Bush de Schwarzenegger dans sa campagne, c'est qu'au moment où il le présente comme le Terminator. Il ne le présente pas comme Arnold Schwarzenegger, il le présente comme le Terminator. C'est-à-dire qu'il le présente comme un motif de fiction venu secourir son ambition politique, sa campagne dans la réalité. Et je pense que c'est là aussi que les choses démarrent vraiment pour Schwarzenegger, c'est-à-dire cette idée que oui, il peut littéralement sortir de l'écran pour venir sauver la démocratie américaine, puisque c'était l'objet de sa campagne au moment de devenir gouverneur.
Voilà, alors lui, il sera élu gouverneur de Californie en 2003. Il exercera deux mandats à la tête de la Californie. Camille Jussas, ça devient de plus en plus troublant parce que toutes les mythologies cinématographiques d'Arnold Schwarzenegger sont convoquées dans sa campagne. Il sera même plus tard surnommé le gouvernator, comme Terminator. Mais la procédure électorale qui lui permet de se présenter, c'est un recall, comme son film, le Total Recall. Non mais c'en est glaçant, quoi.
Non mais alors là, on est dans une sorte de mélange entre la fiction et la réalité, mais totale. Mm. Donc il y a cette procédure qui permet aux électeurs californiens de révoquer leur gouverneur. C'est grâce à ça qu'il a pu être élu. Et en effet, ce qui est assez glaçant, c'est que pendant toute sa campagne, il ne va faire qu'entremêler, glaçant et à la fois voilà un peu grisant, ne va faire qu'entremêler la fiction et la réalité. Juste une anecdote. Le bus, évidemment, comme il fait campagne, il y a plein, ouais, de bus, et chaque bus porte le nom d'un de ses films. Et tous les journalistes sont cantonnés dans un bus qui s'appelle Predator, quand même.
Un dernier mot, Jérôme Momcilovic. Quel genre de républicain a été ce gouvernateur, lui qui a passé sa vie aux côtés de Maria Shriver, c'est-à-dire une héritière de la dynastie Kennedy, donc grande famille des démocrates américains?
Alors, contrairement à l'idée reçue en France, surtout, ouais, en général, et je pense qu'elle est liée aussi à son physique, c'est qu'on a tendance à l'imaginer comme un républicain très très dur, et ça a été plutôt un républicain modéré, ouais, au point de s'opposer parfois d'ailleurs aux directives générales du Parti républicain. Sur le plan des mœurs, c'est quelqu'un qui a toujours été assez moderne finalement, même si on lui reprochait à l'époque de ne pas favoriser assez tôt le mariage gay en Californie. En vérité, c'est le parti qui le retenait. Par contre, économiquement, évidemment, c'est un enfant de Milton Friedman, donc c'est vraiment le libéralisme américain traditionnel. Mais c'est quelqu'un qui laisse une postérité politique de quelqu'un qui était plutôt modéré, très pragmatique.
Et qui déteste Donald Trump. Ça, ce sera après votre film. Il ne va pas jusque-là. La fabrique d'Arnold Schwarzenegger, diffusée sur Arte dimanche soir à 23h. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute la team de l'Instant M qui revient lundi. Sonia Lenglen, Anne-Cécile Perrin, Marion Philippe et Redouane Tella. C'est la fin de l'émission. Alexandre Chêne était aux manettes. Et Ali Irébéi regrette ses tatouages.
Non, je suis pas tatoué. Est-ce que vous êtes tatoué, vous, d'ailleurs?
Non, je déteste ça. Je me suis déjà fait traiter de réac par Nicolas Demorand hier.
Vous pouvez appeler le standard si vous voulez. On va s'intéresser au tatouage. Pourquoi est-ce qu'on se fait tatouer? Et puis surtout, quand on le regrette, parlez-nous de votre détatouage. 01 45 24 7000.